Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir. Nous sommes en direct de Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. 2 heures d'infos et de débats, il est 18h. Et il y a du monde aujourd'hui à Roland-Garros, il y a sans doute encore plus de monde et de supporters dans le reste de la capitale, mais c'est pas le même ballon qu'on se dispute. Ce soir, le Stade de France accueille la finale de la Ligue des Champions, et quelle finale ! Liverpool, Real Madrid, Saint-Denis risque de devenir un chaudron brûlant. En attendant, les supporters des Reds mettent le feu, nous les suivrons. Le rugby n'est pas en reste, finale de la Champions Cup entre Leicester et le Stade Rochelet, nous serons aussi en direct. Cannes, c'est la fin ce soir. Et j'ai envie de dire, so what, tellement la programmation a déçu cette année. Nous rejoindrons Marie Jiquel pour voir ce qu'elle en a pensé. Dans ce journal également, nous irons aux États-Unis où le pays se remet très difficilement de la mort de 19 enfants et de 2 enseignantes dans une école d'Uvalde dans le Texas. La police aujourd'hui fait son mea culpa, tandis que le très fort lobby de la NRA tient son congrès justement ce week-end, également au Texas. Donald Trump y assiste et propose d'armer les profs et les citoyens. Le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana, est avec nous dans quelques instants. La politique avec les législatives, la Macronie bien silencieuse, ça tombe bien. Sylvain Maillard, candidat Ensemble à Paris, nous en dira plus à 18h15, juste avant le débat opposant William Tay du think tank Le Millénaire à Eduardo Riancipel de Territoire de Progrès. 19h15, le débat de Panorama. Les hôpitaux lancent l'alerte. Si rien ne change, disent les professionnels, l'été 2022 risque d'être très impacté. Frédéric Valtoux de la Fédération Hospitalière de France, Bruno Mégarban, réanimateur à Lariboisière à Paris, et l'économiste de la santé Jean-Jacques Zambrowski témoignent ce soir, juste avant Service Pioline. Ça sera votre rendez-vous comme tous les soirs. Rendez-vous de Roland-Garros à 19h45.
Europe 1.
Du rouge et du blanc dans les rues de Paris ce samedi. Non, vous n'êtes pas à Pamplonne, tout va bien. Ce sont les supporters des Reds qui déambulent pour mettre le feu avant la finale ce soir au Stade de France. Finale qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, mais avec la situation géopolitique, c'est Paris qui a donc repris la main pour l'accueil de cette finale face au Real Madrid. Inutile de vous dire qu'il y a de l'ambiance bien avant 21h. Thibaut Hue, vous êtes place de la Nation dans le 12e.
Oui, tout à fait, hein. Je suis face à une grande marée rouge, 40 000 supporters réunis, des maillots, des drapeaux de Liverpool à perte de vue, une ambiance électrique avant un match capital pour leur club. Alors Joe, un supporter venu de Londres, a les poings serrés, son écharpe vissée autour du cou.
Si on gagne ce soir, on rentre dans l'histoire pour cette saison. Ça nous fera 3 trophées, c'est magnifique. Donc il faut absolument la victoire, absolument. Je n'y pensais pas trop jusqu'ici, mais là je suis stressé, mais ça sera bien, je suis excité.
Voilà, la victoire, sinon rien ici, personne n'ose imaginer une déroute face à Madrid, même si la plupart des supporters s'attendent à un match serré. Alors bien sûr, la tension monte chez les Reds et chez Jordan.
Ça va être un superbe match avec 2 superbes équipes, mais ça va être dur parce que le Real Madrid est imprévisible. En défense, on a parfois des faiblesses, mais on est capable de marquer. Liverpool va gagner 3-2, je dirais. Ça ferait 7 titres européens, c'est juste énorme.
Et peu importe le dénouement, beaucoup iront festoyer ensuite dans les rues de Paris. Alors le dispositif de sécurité est très important. 6800 policiers déployés rien que sur la fan zone de Liverpool pour limiter les débordements.
Merci Thibaut Hue en direct de la Place de la Nation à Paris où se tient justement cette fan zone des supporters de Liverpool. Nous suivrons bien entendu cette finale en direct du Stade de France sur Europe 1. Coup d'envoi à 21h et prise d'antenne dès 20h avec toute l'équipe des sports avec leurs invités. Il est 18h03, c'est un mea culpa que les policiers texans ont fait aujourd'hui au surlendemain de la tuerie d'Uvalde ayant coûté la vie à 21 personnes dont 19 enfants de l'équivalent d'une classe de CE2. Le directeur de la sécurité publique du Texas est apparu aujourd'hui pour dire qu'il regrettait que les forces spéciales ne soient pas intervenues dans l'école plus tôt au lieu d'avoir attendu une heure. Pourquoi avoir attendu ce laps de temps? Parce que les forces de police pensaient peut-être qu'il n'y avait plus de survivants. C'était une mauvaise décision. division, point final, a clairement dit Stephen McCrow devant les médias. Mais au même moment, à 300 km de là, environ, à Houston, Texas, se tenait le congrès annuel de la NRA, le puissant lobby des armes aux États-Unis, connu notamment pour financer les campagnes des députés et des sénateurs américains. Invité de ce congrès, l'ancien président républicain Donald Trump, qui n'a pas hésité à en remettre une couche en disant haut et fort qu'il fallait armer les citoyens et en particulier les enseignants.
L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent même protéger beaucoup de monde. L'existence du mal est la meilleure raison pour laquelle il faut armer les citoyens respectueux de la loi. L'école devrait être la cible la plus difficile de notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre d'un plan de sécurité globale, il est temps d'autoriser enfin les enseignants hautement qualifiés à transporter une arme discrètement et en toute sécurité.
Donald Trump, la nuit dernière au congrès de la NRA, et on en parle dans un petit instant avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, si on arrive à le joindre. En Ukraine, c'est une importante prise pour les forces russes. Aujourd'hui, elles se sont emparées de la ville de Liman, une localité clé du Donbass qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk ou Kramatorsk et qui constitue, et c'est particulièrement important, le nœud ferroviaire de l'Ukraine. Sur le front diplomatique, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se sont entretenus aujourd'hui. Ils demandent au président russe de libérer 2500 combattants d'Azovstal, ainsi que d'entamer des négociations directes et sérieuses avec Volodymyr Zelensky. En France, première vaccination du cas contact de variole du singe. Deux personnes considérées comme à risque après avoir longuement été en contact avec un malade ont reçu une dose de vaccin à l'hôpital Bichat à Paris. La France compte actuellement 7 cas avérés de variole du singe. Selon la ministre de la Santé fraîchement nommée Brigitte Bourguignon, le pays dispose de stocks nécessaires de vaccins pour les administrer au cas contact. L'actualité, c'est aussi ce samedi de quasi-vacances. Beaucoup d'entre vous ont fui les grandes villes pour respirer le bon air et peut-être l'iode de la mer, le respirer, pourquoi pas le goûter. Rien de tel qu'une bonne série d'huîtres. Reportage à Pornichet, près de la Baule de Charles Guyard.
À l'entrée du marché de Pornichet, Mathias ouvre les huîtres à toute allure.
Oh là, je viens d'en ouvrir une cinquantaine à peu près. Oh, entre midi et midi et demi, avant, on n'a pas le temps.
Ça, c'est du 4.
En moyenne, ce qui est plus demandé, c'est plutôt le numéro 3.
Du 4, du 3, de la Creuse, de la Plate. Bref, les huîtres partent à toute vitesse et pour cause.
Ce week-end, il y a pas mal de monde. Ouais. Il y a le pont.
Un pont est même le seul de ce mois de mai. Alors forcément, on en profite comme Patrick. Arrivé de Paris, il vient prendre sa dose d'iode jusqu'à dimanche.
Eh bien, écoutez, on a pris des huîtres de l'Armor Baden, des numéro 2, des grosses.
C'est quoi le programme d'ici dimanche?
C'est de se faire plaisir, se balader, etc.
Balade, fruits de mer donc, et plage pour beaucoup. Voilà la combinaison gagnante du week-end. Florilège à la terrasse de ce café.
Nous avons fait beaucoup de vélo.
Moules frites et puis autres divertissements.
Aller à la mer.
On est en famille.
Malgré un soleil qui n'était pas radieux, nous avons passé un très très bon moment.
Et malgré un ciel un peu grisonnant, c'est vrai, le moral lui reste au beau fixe. Quant aux huîtres, avis aux amateurs, avec cette forte affluence, il ne faut pas traîner pour les acheter et surtout pour les déguster.
Une fois ouvertes, si c'est mis au frigo directement, ça peut être mangé dans les 12 heures.
Pornichet, Charles Guyard, Europe 1.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Avec la suite du journal de 18h et juste avant la pause publicitaire, je vous évoquais ce congrès de la NRA à Houston, Texas, où était invité Donald Trump pour donner cette réaction à la tuerie de Uvalde, où il disait qu'il fallait armer non seulement les citoyens, mais aussi les enseignants. Bonsoir Jean-Éric Brana.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, spécialiste des États-Unis. Pas beaucoup de surprises quant à cette réaction de Trump, d'autant qu'elle est concomitante à l'exact inverse réaction de Joe Biden la veille. Mais plus généralement, Jean-Éric Brana, où en sont les Américains avec cette question des armes? Est-ce que c'est 50-50?
Question très compliquée en réalité. Ça dépend de la question que l'on pose aux Américains. Si on leur demande, êtes-vous en faveur de conserver ce droit qui vous a été donné dans la Constitution de posséder une arme, ils sont 80% à répondre oui. Ça veut dire qu'il faut ne pas toucher au sacro-saint deuxième amendement. Mais en revanche, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des limitations à ce droit, en particulier que la recherche des antécédents soit un peu plus sévère, c'est-à-dire que les anciens prisonniers ne puissent pas posséder une arme, que ceux qui ont des problèmes mentaux ne puissent pas non plus la procurer, que les plus jeunes soient également interdits d'avoir une arme. Et si aussi possible de monter cet âge jusqu'à 21 ans. Là, ils sont 85% à demander une législation plus forte et c'est ce que les Républicains ne veulent pas. C'est bien ce qu'a dit Donald Trump parce qu'il faut changer le narratif actuellement qui est plutôt favorable aux démocrates alors qu'on est en période électorale. Et Donald Trump, comme la NRA, a essayé de pousser dans l'autre sens en expliquant qu'eux aussi veulent protéger les enfants, mais pour protéger les enfants, il faut donner à chacun les moyens de le faire. Et donc, si possible, laisser circuler les armes encore davantage.
Bon, là, on est dans l'angle mort, hein, Jean-Éric Brana, parce qu'avec, effectivement, même si avec l'âge poussé à 21 ans, on ne sait pas si c'est ce jeune qui venait d'avoir 18 ans n'aurait pas attendu 3 ans de plus pour commettre ce genre de méfait, et surtout qu'il n'était pas, entre guillemets, connu des services de psychiatrie. C'est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a des... Parce que quand vous dites les Américains, et ces chiffres que vous avancez, Jean-Éric Brana, sont extrêmement intéressants. Mais on est bien d'accord qu'il y a la Californie, New York, etc. d'un côté, et puis il y a le Mississippi, le Texas. Enfin, on ne peut pas vraiment parler d'unité nationale sur cette question.
Eh bien, même pas, parce que là-dessus, c'est un suivi qui est fait par l'organisme Gallup. C'est l'ensemble des Américains qui veulent que le second amendement soit conservé. Ce à quoi vous faisiez allusion, c'est les législations qui sont mises en place dans certains États, où là, oui, il y a déjà une différence. 25 États, pour faire simple, ont mis des législations beaucoup plus dures vis-à-vis des armes, et 25 sont plutôt pour l'idée de libéraliser. La question, c'est de savoir comment interpréter ce second amendement. Veut-il dire que chaque Américain peut s'armer? Veut-il dire que c'est dans le cadre de forces de police ou de l'armée que l'on peut s'armer? C'est ça la véritable réponse, et ça, il n'y a que la Cour suprême qui peut donner la réponse.
Une dernière question, Jean-Éric. Chaque cas fait jurisprudence, et malheureusement, depuis que vous exercez dans votre spécialité et moi dans la mienne, on s'interroge, enfin je vous interroge régulièrement après chaque turn, mais la vie de 19 élèves de 8 ans, ouais. Ça ne suffit pas comme impact?
Eh bien, ça suffit pour susciter une émotion qui renverse complètement l'Amérique, qui retourne les tripes, bien évidemment, et on l'a tous ressenti à travers le monde. Il y a ce nuage qui s'est envolé et qui se demande pourquoi l'Amérique a cet exceptionnalisme si terrible. Mais non, ça ne suffira pas à faire voter une loi, à réunir les législateurs autour d'un même texte. Encore une fois, dans 15 jours, on passera à autre chose et les démocrates se désoleront en disant que les républicains ont encore tout bloqué. Chacun va se renvoyer la responsabilité et c'est vrai qu'à la prochaine tuerie, eh bien, vous m'interrogerez encore.
Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, c'est très clair, spécialiste des États-Unis et auteur du livre Kamala Harris, l'Amérique du futur. On part tout de suite, enfin, moi je suis à Roland-Garros, mais on reste à Roland-Garros.
Europe 1, en direct de Roland-Garros.
Eh oui, alors ce qu'il faut vous dire, c'est que nous sommes ici dans l'allée centrale face au Châtrier, ouais. Et Colin Abgral, lui, est à l'intérieur de la cabine d'Europe 1, qui a la vue, non pas sur la mer, mais sur le central. Colin, les Français, on en est où là aujourd'hui?
Eh bien écoutez, c'est une journée noire hein, pour les Français. Il y a de cela 45 minutes, Gilles Simon s'est fait sortir par Marine Cilic en 3-7, 6-0, 6-3, 6-2 en un peu moins de 2 heures de jeu. Il jouait son dernier Roland-Garros, Gilles Simon. Avant cela, c'est Alizé Cornet, la Française, qui a dû abandonner face à la Chinoise Qinwen Zheng pour une blessure à la cuisse. Et puis en début d'après-midi, Pierre, c'est Léolia Jean-Jean, la petite sensation qui a été dominée finalement par la Roumaine Irina Camelia Begu en 2-7. 6-1, 6-4, donc journée noire, mais il reste une chance. La dernière chance française, c'est Hugo Gaston qui jouera sur le court central qui est en face de vous, face au Danois Holger Rune, et donc pour voir peut-être un Français en deuxième semaine.
Ce soir en night session, merci beaucoup Colin Abgral, rendez-vous avec Cédric Pioline tout à l'heure à 19h45 pour faire le point à la finale de la Coupe d'Europe de rugby, la Champions Cup, c'est parti depuis un quart d'heure au stade Vélodrome de Marseille. La Rochelle défie la terrible équipe irlandaise du Leinster de Jonathan Sexton, plus de 60 000 spectateurs annoncés pour cette grande fête du rugby. Stéphane Burgat, vous êtes en direct. Il faut quand même voir que les Rochelais sont en quête d'un premier titre européen, hein, Stéphane.
Ouais, quel paradoxe, un beau club comme la Rochelle qui n'a aucune ligne à son palmarès. Le rêve est permis. Ce soir, c'est un match très disputé. Pour l'instant, c'est le Leinster qui mène d'une courte tête 9-7. Ils s'en sont remis pour l'instant au buteur, hein, Jonathan Sexton. Un essai en face des Rochelais par Raymond Roule qui a fait parler sa vitesse. Le Leinster qui a gagné 4 fois déjà cette compétition. C'est un ogre, mais en face, on a un club qui est bien dans ses pompes, bien dans cette situation d'outsider. Petite scène vécue hein, tout à l'heure pour témoignait vraiment de l'osmose qui règne entre le club et ses supporters. Alors que les supporters étaient en dehors du stade, le bus s'est arrêté. Les joueurs qui ne sont pas sélectionnés pour disputer ce match sont sortis, sont venus voir les supporters. Ils y croient, ils sont détendus. C'est peut-être le soir pour rêver au Vélodrome. 9-7 pour l'instant pour le Leinster.
Merci beaucoup Stéphane Burgat en direct du Vélodrome à Marseille. Deux autres infos sport. Charles Leclerc, roi chez lui. Le Monégasque sur ferraille prend la pole position sur le circuit de Monaco avant le Grand Prix de Formule 1 demain. Et puis, comme quoi le deux roues, ça ne pardonne pas. En MotoGP, le sextuple champion du monde, Marc Marquez, victime d'une fracture au bras droit en juillet 2020, va de nouveau se faire opérer de ce même bras la semaine prochaine. Allez, c'est l'heure de vous faire beau. Ce soir se termine le 75e Festival de Cannes. Vincent Lindon et son jury vont décerner la fameuse Palme d'Or. Et elle pourrait être belge, Marie Jiquel.
Et oui, deux films belges se sont distingués lors de cette 75e édition, sans surprise. Celui des frères Dardenne, déjà deux palmes d'or sur leur cheminée, ils présentaient Tori et Lokita, drame social qui pourrait d'ailleurs toucher Vincent Lindon, sensible à ces problématiques. Tori et Lokita qui racontent le parcours de deux réfugiés béninois.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue ?
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
Sortie prévue en septembre prochain, et puis un outsider, et vous savez que le jury flash souvent sur les cinéastes plus discrets. Ce réalisateur avait déjà marqué les esprits en 2018 avec son film Girl, caméra d'or cette année-là. Il s'agit de Lucas Dont qui a ému la croisette avec son drame Close. Beaucoup de larmes devant cette amitié entre deux adolescents, une amitié moquée par le reste de la classe.
Je veux dormir chez Rémi ce soir.
Mais d'autres films pourraient faire de l'ombre au réalisateur belge. RMN du roumain Christian Mondjou, déjà palme d'or avec son film 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et puis le film Leïla et ses frères, signé Saïd Roustaï, cinéaste iranien révélé par son film La loi de Téhéran.
Merci Marie Jiquel à Cannes pour Europe 1. Il nous reste à voir le ciel. Valérie Darmon, de nouveau un petit tiers nord dans les nuages.
Effectivement, des Hauts-de-France et de la Normandie au Grand Est, le ciel reste hésitant entre éclaircies et passages nuageux, parfois porteurs d'une petite averse, aux environs de Caen ou encore de Metz, les ondées qui sont plus fréquentes d'ailleurs l'après-midi. De la Bretagne au centre, après une belle matinée ensoleillée, le ciel devient également passagèrement nuageux. Il reste même mitigé sur les Alpes-Maritimes, la Côte d'Azur et le nord de la Corse avec des grisailles et de rares ondées à la côte, des averses plus fréquentes l'après-midi sur le relief. Sur l'est des Pyrénées, des averses orageuses éclatent aussi et quelques gouttes finissent par déborder sur le Roussillon en soirée. Sur le reste du pays, le soleil qui domine toute la journée. Les maximales ne dépassent pas 16 à 20 sur la moitié nord, 14 à 15 de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, 20 à 25 en allant vers le sud et jusqu'à 30 sur les régions méditerranéennes.
Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous, nous qui sommes ici face au cours Philippe Châtrier à Roland-Garros dans un instant. C'est l'interview politique. D'après les premières tendances des sondeurs, l'abstention pourrait à nouveau être colossale aux législatives. Qu'est-ce que ça signifie? Y a-t-il des conséquences importantes à envisager? Sylvain Maillard est l'un des 539 candidats ensemble, il est notre invité, à tout de suite.